Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Martin Michaud nous arrive avec son nouveau livre. Attention, on est ailleurs complètement. On quitte l'univers de Victor Lessard pour entrer dans celui de l'art et des années 90. Martin, bonjour.
Bonjour, Paul.
C'est vrai, là, on est complètement ailleurs. Et là, tu vas nous expliquer ce que tu entends par le premier opus d'un triptyque.
Ouais, écoute, comme on est dans le milieu de l'art et de la peinture contemporaine, j'ai une petite coquetterie. J'avais envie d'écrire cette histoire-là. Je savais déjà que c'était pour être une trilogie. Milieu de la peinture, trilogie, triptyque.
OK, parfait. D'où vient l'intérêt pour la peinture? Faut connaître ça, faut avoir une passion, il faut vraiment, parce que j'ai commencé à le lire, là, puis on parlera du vol au Musée des Beaux-Arts.
Ouais.
Comment t'as développé autour de ça?
Oui. Ben, en fait, on en parlait un peu hors d'onde. Il y a un personnage central du roman qui s'appelle Francis Lazare qui explique là-dedans les raisons pour lesquelles il a commencé à s'intéresser à la peinture quand il était enfant. Elles sont les miennes. J'avais un jeu à la maison que certains auditeurs vont sans doute connaître qui s'appelle Grand Maître. Et c'est un jeu dans lequel il y avait des reproductions de toutes sortes de toiles de grands maîtres. Il fallait miser, là, il y avait des faux tableaux là-dedans. Moi, j'ai commencé à jouer à ça avec un de mes amis quand j'étais tout petit. Et c'est une passion qui s'est développée comme ça. J'ai commencé à m'intéresser à la peinture. Puis à un moment donné, il y a les expressionnistes qui sont arrivés dans la ville de Québec pour une exposition là, dans les années 80, je pense, au début des années 90, je suis allé voir ça. Et j'ai toujours continué de m'intéresser par la suite.
Le pivot, c'est un vol au Musée des Beaux-Arts en 1972. Et on s'entend, c'est un vol réel.
C'est un vol réel, tout à fait. C'est un vol qui s'est produit, pendant la nuit. Trois cambrioleurs qui se sont introduits dans le musée par une verrière du toit qui avait été laissée ouverte. Il y a une échelle qui avait, entre guillemets, été oubliée sur place. Il y a des employés d'une entreprise de Saint-Léonard là, qui faisaient des rénovations. Sur les heures d'ouverture du musée dans cette période-là. Et ils ont volé au total 18 toiles de grands maîtres et 38 objets, des bijoux, des artefacts, etc. On dit qu'en valeur actualisée, aujourd'hui, ce vol-là n'a pas encore été élucidé. Ce vol représenterait peut-être aujourd'hui une valeur actualisée autour de 100 à 150 millions de dollars.
Et on ne sait pas qui a fait ça. Où sont les œuvres d'art? Rien.
On ne sait rien. Il y en a une qui a été rendue par les cambrioleurs dans des circonstances là, trop complexes là, pour les détailler ce matin. Puis on s'est rendu compte, le musée s'est rendu compte que cette œuvre-là, c'était un faux. Les cambrioleurs savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais ils ont été obligés d'en abandonner sur place. Ils prévoyaient en amener plus, mais le système d'alarme s'est déclenché. Alors moi, je me suis amusé à mettre en scène ce cambriolage-là et à en faire effectivement un pivot de cette histoire qui raconte au fond le conflit entre deux familles dans les années 90, deux familles qui évoluent dans le milieu de l'art à Baie-Saint-Paul. Ce conflit-là va d'une certaine façon, donner naissance à une situation qui va culminer sur l'enlèvement d'une petite fille, d'une des deux familles, la famille Lavoie. Et cette petite fille-là, qui s'appelle Rosalie, va évidemment, pendant qu'on la recherche, donner beaucoup de fil à retordre aux policiers. On n'est pas comme dans Victor Lessard, justement, dans une cellule d'enquête là, avec des policiers qui sont en train d'essayer de retrouver la victime. On va être plutôt avec la famille et avec la grande sœur l'histoire de Rosalie Alice, qui était, elle, une patrouilleuse de la Sûreté du Québec. Et quand elle a appris la disparition de sa sœur, elle est allée demander des comptes à l'autre famille. Il y a une situation qui a dégénéré. Elle a été suspendue de ses fonctions. Et c'est elle qui va mener l'enquête en parallèle de ses collègues avec, évidemment, là, tout
l'arsenal.
Ce qui peut découler là de cette voie parallèle là.
Ce qui est fascinant dans cet univers, c'est d'abord on a peu écrit là-dessus. J'ai vu pas mal de documentaires, oui. Le vol du musée à Boston, oui. Et souvent, d'abord les œuvres sont pratiquement disparues à jamais. On connaît pas, en tout cas rarement, les voleurs qui sont les bénéficiaires. Est-ce que tu nous amènes dans les coulisses des vols? Que sont devenues ces œuvres d'art? Pourquoi et comment font les voleurs pour les écouler? Tout cet aspect-là là, qui...
Oui, en fait, c'est un triptyque. Donc, évidemment, le premier tome, c'est le vol du Musée des Beaux-Arts. Il y a une toile que je me suis permis d'ajouter au vol, qui a été peinte là par un personnage que j'ai un peu calqué essentiellement sur un personnage historique. Il y a Clara Schumann qui est une grande pianiste de concert, une grande compositrice, et je me suis amusé à prendre un peu sa vie à elle comme un canevas, et j'ai bâti un personnage qui s'appelle Esmé, et c'est Esmé qui a servi de modèle à un peintre, et cette toile-là devient aussi un enjeu. Le SME devient un enjeu. Il y a beaucoup de personnes qui tentent de mettre la main sur ce tableau-là, et on va évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans les trois tomes du triptyque, comprendre quel chemin ces toiles-là ont pris à partir du vol de 72 et ce qu'elles sont devenues effectivement.
Est-ce que tu collectionnes les œuvres d'art?
Hey Paul, tu sais, c'est quoi la vie d'un artiste? J'aimerais beaucoup avoir des moyens financiers pour collectionner des œuvres d'art. Mais en fait, écoute, j'ai quelques toiles. J'aime beaucoup l'art. Et j'ai effectivement cette passion-là. Donc, quand j'ai la chance d'en trouver une, disons, à l'intérieur de mes moyens,
oui, toujours.
Je le fais, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien, l'art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit les livres. Moi, c'est quelque chose qui m'apaise, et puis d'écrire là-dessus, c'était aussi une façon pour moi d'explorer le processus créatif qui est derrière, justement, celui des artistes peintres.
Quand on écrit des trailers comme avec Victor Lessard comme ouais. Personnage principal, est-ce que de dire « je m'en vais complètement ailleurs », là, on se sent à risque. Est-ce que le public va suivre? Est-ce que moi, je les ai habitués, je les ai gâtés, je les ai nourris.
Ouais.
Là, je leur dis, venez avec moi dans cet autre univers.
100%. Écoute, le roman est lancé aujourd'hui. Je suis complètement terrorisé, pour tout te dire, parce que t'as raison. Victor Lessard, c'est une marque qui est établie. Puis pour moi, c'est ça, c'est une zone de confort, Victor Lessard, parce que c'est des personnages auxquels je me suis attaché, puis c'est toujours un plaisir de faire revivre une histoire à Victor et à Jacinthe, mais en même temps, je pense que je dois à mes lecteurs de continuer à être curieux, puis de continuer à fouiller, puis de continuer à m'intéresser à plein de choses, puis de continuer à aller voir ailleurs si j'y suis, parce que c'est comme ça, je pense que on garde un regard neuf, puis on continue de progresser. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais revenir à Victor Lessard. C'est pas du tout la fin de Victor Lessard, mais en même temps, c'est ça. Je suis pas l'homme d'une seule œuvre. Et pour moi, la la plus belle qualité d'un écrivain, d'un scénariste, d'un artiste, c'est la curiosité. Et moi, c'est ça qui m'allume et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer.
En lisant les premières dizaines de pages, on sent la curiosité, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un trailer. On sent, j'allais dire aussi, l'espèce de questionnement, mais qui sont ces familles? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Plus on tourne les pages, plus il y a des questions qui s'ajoutent. Quand tu donnes une réponse, ben, il y en a 12 qui viennent,
Ouais, ben, c'est un peu toujours le même jeu, hein, qu'on fait, qu'on propose au lecteur. C'est-à-dire, on lui demande de lire quelques pages. En prenant le pari que à partir de là, c'est un peu comme
on
si
on devient accro.
Oui, t'as mis le doigt dans le tordeur et à partir de ce moment-là, c'est difficile de revenir en arrière.
Martin, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Un grand plaisir.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Alors ce matin, nous recevons Jean-Marie Lapointe, que vous connaissez bien, qui nous propose un livre qui s'appelle Notre dernier voyage, évidemment. Ce sont les derniers moments de son père, Jean Lapointe, préface de Marina Orsini. Jean-Marie, bonjour.
Salut, Paul.
D'abord, à quel moment t'as décidé de tout raconter sur la fin de vie de ton père?
Je suis sur l'autoroute 20 en direction de Québec, puis j'ai un flash parce que ce que je vis présentement à ce moment-là, au mois d'août 2020, c'est que papa vient de rentrer au CHUM, puis ça
va pas bien.
Pas bien. Non. Puis... j'avais senti l'élan de il fallait que je ventile, il fallait que j'en parle. Puis j'ai glissé un mot à Nadine Lauzon, qui était mon éditrice à l'époque. J'ai dit, on a-tu de quoi faire un journal intime? On peut-tu en parler? Puis en même temps, c'était un clin d'œil à mon tout premier livre que j'avais écrit sur mon père, qui s'appelait « Mon voyage de pêche ». Puis j'ai dit, j'ai l'impression que il faut écrire là-dessus. Tu sais, toute l'expérience d'accompagnement de fin de vie que je fais depuis 25-30 ans. Puis Nadine a dit, oui, il faut que tu fasses ça. Je pense que c'est important. Ton père, c'est une personnalité qui est aimée. Puis d'avoir accès de ta posture de proche aidant, ça va toucher beaucoup de gens. Puis particulièrement, je pense, les gens qui ont de la misère à avoir un médecin, un psychiatre, un travailleur social, ils n'ont pas accès à ça. Je pense que ton livre peut être une aide extraordinaire. Puis c'est là qu'elle a eu flash, moi, mais tu sais, c'est pas parce que toi t'accompagnes des gens depuis longtemps que t'as pas besoin d'être accompagné. Puis là, je pense à Joanne de Montigny. Mm-hmm. Puis je pense au Dalai Lama qui a encore des maîtres. Là, je me suis dit, si lui, il a des maîtres, je pense que c'est une bonne idée. Puis Joanne de Montigny, qui est une sommité dans le deuil, dans la fin de vie, je la connaissais depuis quand même un petit bout de temps. J'y ai demandé de m'accompagner, puis elle a dit oui. C'est ce qui donne, ça donne dans le livre.
Ton père, c'est un personnage hors norme. C'est une figure dominante au Québec.
Ouais.
Avec son caractère, là, quiconque l'a croisé le sait.
Il est venu une couple de fois avec toi.
Oui, oui, oui. Puis pas toujours de bonne humeur. Puis il pouvait bougonner. Puis un petit coup de poing sur la table de temps en temps. mais en même temps, toujours très correct aussi.
Mmh. Puis c'est un grand sensible.
Oui. Et là, on entre dans ses derniers moments de vie. Mmh. Puis tu m'as entendu le dire ce matin très tôt.
Ouais.
Je tournais les pages, une après l'autre. Mm-hmm. Puis là, je me dis, on est dans un niveau de détail. C'est sa vie intime. Puis c'est pas drôle, là. La perte cognitive, la dépendance face aux autres pour les besoins primaires. Là, tu vas vraiment, vraiment dans les détails. Avais-tu mm-hmm. besoin d'aller là?
Hmm. Ben, je pense que si je l'avais pas fait, je m'en serais voulu et j'aurais peut-être trop édulcoré la fin de vie, qui est une perte à plusieurs égards. Puis c'est là que je trouve intéressant, puis tu sais, les gens n'ont pas entendu notre conversation avant que le micro ouvre, mais c'est là que je trouve que tu es fidèle à toi-même, Paul, parce que tu es un gars sensible, mais très pudique. Tu vas choisir les gens avec qui tu vas peut-être ventiler. Puis moi, à la différence de toi, je sentais qu'il fallait que je raconte de façon parfois très cocasse, comme la scène où papa me demande de l'aider à faire pipi. Et là, il est dans son lit, il peut pas bouger, alors... Moi, je suis maladroit. Moi, je suis tout croche. Je sais pas comment le faire. Puis, j'ai pas cette habitude-là avec lui. Et je suis mal à l'aise. Je veux dire, écoute, là, c'est comme pas normal dans ma tête puis dans ma vie de faire pisser mon père. Puis, c'est là, je me dis, stick, la scène est drôle. Ça a pas de bon sens. Puis, on devient complice là-dedans. Puis là, je me dis, oui, j'avais besoin d'aller là parce que ça va dédramatiser certains passages d'une fin de vie d'un proche. Puis je me dis, si mon père avait eu à écrire une scène, il serait allé dans les détails cocasses et drôles parce qu'il était capable d'aller là. Puis je me suis dit, là, je vais le faire. Puis tu sais, quand tu déposes ton manuscrit, il y en a du monde qui passe à travers ton livre. Puis moi, je suis entouré de femmes. Hein? Mon éditrice, c'est une femme. La propriétaire, c'est une femme. La directrice, c'est une femme. Ma correctrice, c'est toutes des femmes. Je me dis, si ça passe à travers eux autres, moi, je me sens padé. Joanne de Montigny l'a lu, je me sens padé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, à la première lecture, vont dire, hey boy, on est dans le détail. Oui, mais je ne pense pas que c'est fait sans respect envers mon père et surtout sans respect envers la fin de vie.
Non, je dis pas que ça manque de respect, au contraire. Des fois, c'est qu'on se sent un peu mal à l'aise. On
ou
se dit, on,
voyeur, peut-être?
Un peu.
OK.
On est-tu rendu là? Puis, puis l'autre affaire, c'est... j'ai une anecdote, quand il parle de sexe, puis qu'il parle de sa conjointe, là, tu dis, OK, là, on comprend qu'il est plus ou moins là, puis que, tu sais, qu'il envoie des lignes comme Jean Lapointe peut les envoyer, puis tout ça. Il y a un côté comique à ça, mais la perte d'autonomie, je trouvais ça triste de voir quelqu'un qui a une vie, évidemment, très mouvementée, avec des hauts et des bas. Tu dis, il est en train de s'éteindre tranquillement.
Et ça, c'est tough pour nous aussi de le voir s'éteindre. C'est tough pour sa conjointe Mercedes, pour mes sœurs, pour tout le monde. Mais papa m'a enseigné une belle leçon, que c'était possible de rester digne malgré cette déchéance humaine sous toutes ses formes. Et que ce qui est très touchant dans la fin de vie avec mon père, c'est qu'il a accepté d'être aidé, bichonné, lavé, accompagné, les bras ouverts. Tu sais, il est dans un état de totale vulnérabilité que je me dis, wow, quel beau message. Alors, c'est ça aussi qui faisait partie de ma démarche dans l'écriture, c'est de rendre cette fin de vie-là quand même digne, malgré que papa n'est plus à la hauteur de ce qu'il a déjà été. Mais en même temps, dire, c'est ce qui nous attend aussi beaucoup.
La relation père-fils se transforme comment quand notre père, comme ça, est en perte d'autonomie, puis là, physique, je le disais, puis c'est cognitif aussi. Ça devient comment, là? T'es le responsable de ton père?
Mais en même temps, c'est drôle, parce que cette dynamique-là, on l'avait déjà connue, mon père et moi. Je veux dire, quand j'étais tout petit, à 5-6 ans, j'allais chercher des bières dans le frigidaire caché dans le sous-sol pour faire plaisir à mon père, tout en étant conscient que, oh, OK, je pense que papa n'est pas supposé boire, mais je l'aime, mon père. Puis mon père me rend quelque part complice de sa maladie de l'alcoolisme, tu sais. Alors, on a déjà cette complicité-là qu'on n'a jamais perdue, qu'on a toujours eue, on l'a gardée. Et je pense que ce qui est arrivé, ou ce qu'on appelle maintenant next level, c'est que cette intimité-là corporelle nous rapproche. Il y a un rapprochement physique parce que tu lèves ton père du lit, tu l'accompagnes aux toilettes, tu l'aides à manger et tout ça. Mais quand ton père te regarde dans les yeux puis qu'il te dit « Merci mon fils, t'es un bon préposé. Tu sais, comment ça va docteur? » Puis là, je me rends compte que mon père, il dédramatise la situation parce que lui-même, il est complètement impuissant. Mais il me rend complice de cette aide-là. Puis je me dis « C'est un beau cadeau parce que c'est pas tous les enfants, c'est pas tous les parents qui vont vivre ce rapprochement à la fois corporel et spirituel. Puis moi, je me sens tellement chanceux que probablement, comme j'ai une trop grosse boîte de chocolat, il faut que je la partage. Je pense que j'avais envie de partager à quel point que mon père m'avait apporté énormément. Et toujours dans l'idée de, il faut que ce soit aidant, il faut que ce livre-là aide beaucoup de gens.
Ce qui m'amène à mon autre question. Les gens, de façon générale, c'est pas de mourir qui fait peur. Non. C'est le dernier parcours, puis dans quelles conditions je vais me retrouver, puis de souffrir aussi, d'avoir mal. Personne ne va avoir mal, puis tout ça. Puis je lisais ton bouquin, puis je me disais, à quelle heure on demande l'aide médicale à mourir dans certains cas? T'sais? Puis toi, tu as accompagné beaucoup de gens dans toutes sortes des plus jeunes, des enfants, puis tout ça, puis bon, des adultes, puis ton propre père. Quelle sorte de fin de vie on se prépare? C'est un peu ça aussi. Puis tu dis, est-ce que j'ai le goût d'être dans un CHSLD? Puis je parlais avec les membres de l'équipe, puis c'est non, nous autres, on veut pas aller là. Puis c'est pas ben tentant, là, tu sais. Fait que ça force cette réflexion sur la fin de vie qu'on veut dans la mesure du possible, avoir.
Totalement. Puis mon père, peut-être que sa foi, extraordinairement puissante et ancrée depuis son enfance, lui a permis d'aller jusqu'au bout sans avoir eu l'aide médicale à mourir. T'sais. Et je ne pense pas que mon père, ça faisait partie de ses options, parce que la gestion de la douleur et des inconforts, que ce soit avec la maison Saint-Raphaël ou au CHSLD où il était, nous, je peux te dire, je vais donner une note de 10 sur 10 partout où papa est allé. On est privilégié pour ça. Mais c'est sûr que tu dis jusqu'où on endure ça. T'sais, moi, dans sa posture à lui, toi, je veux dire, serais-tu capable d'endurer ça? La réponse est oui, si j'ai les mêmes conditions de fin de vie. Ça, c'est clair.
Des gens qui disent que quand on n'est pas malade, on a l'impression que ce serait non. Puis quand on l'est, on n'est pas si certain que ça, que ça vaut pas la peine d'être vécu encore pour un petit bout de temps.
En effet, puis il y a des gens qui changent d'idée. Il y a quelqu'un qui me racontait l'anecdote qu'il n'y a pas si longtemps, son père avait demandé l'aide médicale à mourir, puis à la toute dernière minute, il l'a refusé. Il a dit non. Non, je veux vivre jusqu'au bout. Et j'ai accompagné deux personnes dans les deux dernières années qui ont demandé l'aide médicale à mourir et ce fut deux expériences extraordinaires.
Jean-Marie, merci beaucoup d'être venu ce matin. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà des pauses ici, que c'est pas le choix. Il n'y a pas de subvention.
Hey, merci, Paul.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, on va parler des jeux, des applications qui sont disponibles pour les enfants. La presse nous dit ce matin que quelques 249 applications pour les enfants peuvent facilement se comparer à des jeux de hasard pour adultes, que la frontière est plus que mince, que les techniques utilisées pour que les enfants deviennent accros sont à peu près les mêmes que chez les adultes. Et là, on parle ici d'enfants qui sont quand même de très jeunes enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maude Bonenfant est avec nous. Elle est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Madame Bonenfant, bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi de ces applications, d'abord de leur conception, de la recette pour que les enfants deviennent des accros.
Mais en fait, ce type de jeu-là, c'est des jeux mobiles gratuits. Donc, pour qu'ils fassent de l'argent, le modèle économique, c'est de proposer des microtransactions, de collecter des données et de diffuser de la publicité. Donc, dans les trois cas, on a besoin que les joueurs, les joueuses restent connectés le plus longtemps possible. Puis, on veut les amener à regarder la publicité et à consommer. Donc, pour ce faire, bien, on a développé toutes sortes de stratégies qu'on appelle des mécaniques persuasives. Donc, toutes sortes de mécaniques ou de fonctionnalités, de récompenses qui vont être offertes à des moments spécifiques pour garder les enfants, les ados connectés. Puis aussi les faire dépenser en utilisant toutes sortes de biais cognitifs, par exemple. Et donc, évidemment, les mécaniques qui sont liées aux jeux de hasard et d'argent sont hautement addictives, hautement compulsives. Et donc, on va en voir toute une déclinaison là, qui va être utilisée dans les jeux, même pour les tout-petits, comme vous le disiez. Là.
OK, mais c'est ce bout-là que je trouve très spécial, là, que des ados accrochent à des jeux, il y a des adultes qui accrochent. Mais quelle est l'approche auprès d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans quand on utilise Pat Patrouille et Barbie?
Ben, par exemple, on va utiliser les cadeaux quotidiens. Donc, à chaque jour, l'enfant va revenir se connecter, puis il va recevoir un cadeau. Puis dans certains cas, c'est si tu te reconnectes à tous les 7 jours, ben là, au 8e jour, tu vas avoir un très gros cadeau. Mais si tu manques une journée, tu vas retourner à zéro. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on habitue, par exemple, l'enfant à se connecter à tous les jours au jeu. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est on va utiliser le hasard, pas nécessairement pour faire avancer, par exemple, avec un dé, mais le dé va pas servir à faire un mouvement, va servir à savoir quelle récompense tu vas avoir. Et donc là, supposons que l'enfant le 1, ben là, non seulement il va avoir eu sa récompense avec le hasard, mais en plus, on va lui montrer les 5 autres récompenses qu'il aurait pu avoir. Et évidemment, il y en a toujours une plus belle qu'il n'a pas eue. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Bien, il va vouloir recommencer à jouer, à réessayer le jeu, ce type de mécanique-là. On voit des roues de la fortune, on voit toutes sortes de mécaniques là qui sont carrément des jeux d'hasard et d'argent, ou bien très, très similaires, qui vont utiliser le même type de mécanique, puis de récompense. Ça va activer la dopamine exactement comme un joueur de jeux d'hasard et d'argent. Là.
C'est pas une coïncidence, là. C'est pas le fruit du hasard, si on parle de jeu, justement, là. C'est une stratégie d'entreprise. On embauche des psys pour être capable de traduire dans des codes informatiques une lecture du cerveau des enfants.
Oui, absolument. Mais ça, c'est en fait, on le voit dans les jeux pour adultes. Là, ce qui est déjà grave, qu'on utilise ce genre de mécanique-là, parce que dans le domaine du jeu vidéo, on sait exactement quel type de mécanique utiliser, à quel moment, quelle offre faire, à quel moment. On a des profils de joueurs très précis. Donc, on va savoir, par exemple, que tel type de joueur va être presque sur le bord de consommer, donc d'acheter des microtransactions. Donc, on va lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser pour la prochaine heure, par exemple. Donc, ça, on connaît ces mécaniques-là. On sait comment on peut garder les joueurs connectés, les faire revenir quotidiennement. Là, ce qui est encore plus grave, c'est que là, on utilise les mêmes connaissances, les mêmes mécaniques dans les jeux pour tout petit. Mais le problème, c'est vraiment le modèle d'affaires. Donc, c'est pas tous les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo gratuits, là. Où là, c'est que le modèle d'affaires est basé sur le fait que l'enfant se connecte souvent et reste connecté et regarde la publicité et consomme dans le jeu. Donc, il est là le gros problème. Et ça, oui, c'est utilisé même dans les jeux pour tout petit parce que c'est pas encadré, c'est pas légiféré. Donc, c'est un modèle qui roule, ça fonctionne bien et c'est en très forte croissance. Les jeux mobiles sont depuis des années, puis depuis la pandémie, on le sait, les enfants aussi sont très connectés, puis c'est le type de jeu qui est favorisé, tu sais, ces jeux mobiles-là. Donc, il y a vraiment un gros problème là en termes d'encadrement. Là.
Est-ce qu'on peut dire que la présentation est quand même très habile, très subtile, dans la mesure où les parents sont pas capables nécessairement de comprendre l'enjeu, de décoder ce qui se passe, puis on passe le téléphone ou la tablette à l'enfant, puis il a 3 ans, puis il joue. Puis est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des symptômes d'un enfant là, qui serait comme vraiment accro et dépendant?
Ouais, moi je suis pas psychologue là, donc je voudrais pas m'avancer du côté de la partie médicale. Sauf que un des très très gros problèmes selon moi, c'est justement la classification des jeux. Donc il y a beaucoup de confusion, puis pour les parents, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver, voire impossible, parce que sur les magasins, donc que ce soit Google ou Apple, ils vont avoir leur propre catégorisation. Ils vont avoir une catégorisation qui va être mise en place par l'industrie du jeu vidéo. Il va avoir une catégorisation aussi qui va être appelée approuvée par les enseignants selon Google, et tout ça se multiplie avec des codes d'âge, etc. Puis il y a beaucoup de volontariat, donc c'est les entreprises au final qui décident un peu comment ils présentent le jeu, et c'est souvent le contenu comme tel qui va être classifié, donc plus est-ce qu'il y a de la violence, etc., mais pas est-ce qu'il y a des mécaniques persuasives, est-ce qu'on utilise les notifications poussées par exemple, est-ce qu'on utilise des mécaniques qui joue sur la version à la perte, etc. Ça, on n'a pas ça, c'est pas classifié. Donc, pour les parents qui s'y connaissent pas, ça a l'air des petits jeux très innocents, tout mignons, tout adorables. Et puis, en fait, c'est ceux-là qui ont les mécaniques les plus perverses là, pour les petits-enfants, dont le cerveau est en plein développement biochimique, là.
J'aime beaucoup votre phrase là, qui est dans la presse de ce matin. On impose des casques de vélo, des bancs de voiture là, dans les autos, mais on protège pas les enfants face à de tels jeux.
Oui, ben c'est ça. C'est là où c'est dramatique, parce que les études le démontrent, que si les jeunes sont exposés aux jeux de hasard et d'argent, ils ont beaucoup plus de risques de développer une dépendance à l'âge adulte. Et là, non seulement il y a ce risque-là qui est accru, mais présentement on banalise donc le gambling dans une extension large. Là, on le banalise et même on le normalise. Et donc pour les enfants, ils voient même pas le problème. Il y a même pas un problème. Et donc c'est sûr que comment ils vont grandir ces enfants-là en s'étant habitués à ce genre de mécanique-là, qui devient de plus en plus manipulative. Et là, si on veut aller encore une petite coche de plus, ben maintenant, avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec les données qui sont collectées, on est à même de créer des profils très, très précis, psychologiques, et savoir exactement quand l'enfant éventuellement va consommer, donc lui offrir quelque chose, ou s'il veut se décrocher, ben, on va lui offrir un petit cadeau, etc. Donc, les risques de manipulation avec des profils très précis sont très grands. Et encore une fois, je le répète, l'encadrement n'est pas adéquat pour protéger ces petits-enfants, puis qu'on protège pourtant à de nombreux égards, mais là, non, ils sont vraiment laissés à eux-mêmes, et je pense qu'il faut vraiment agir. Là.
Merci beaucoup, Mme Bonenfant. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Maude Bonenfant est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. C'est assez troublant de voir la recette utilisée. Puis on le sait, pour les adultes, les techniques pour créer de la dépendance, là, comme adulte, on est capable de le voir, puis même, on peut tomber dans le piège. Mais là, juste vous donner un chiffre qui est dans l'article de Marie-Claude Malbeuf, là, 49% des enfants de 0 à 2 ans je répète, 49 % des enfants de 0 à 2 ans interagissent avec un téléphone intelligent. Alors, c'est pas leur téléphone, c'est notre téléphone qu'on leur passe. Pendant combien de temps? Ils font quoi avec? Et ça va jusqu'à 62 % pour les enfants de 3 à 4 ans. Alors, peut-être jeter un coup d'œil et on dit même qu'il y a des enfants, on comprend pas pourquoi, quand ils ont pas ce qu'ils veulent, ils font une crise, là, le fameux bacon, là. Ben, ça se peut que ça soit comme une espèce de forme de dépendance face au jeu qui a l'air bien banal, là, un petit pas de patrouille qui a l'air de rien, mais qui peut causer des dommages comme ça à long terme.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Jean-François Lépine est de retour pour nous parler de son livre qui sera disponible dans les heures qui viennent, publié chez Libre Expression, Les angoisses de ma prof de chinois, où s'en va la Chine. Jean-François, rebonjour.
Bonjour.
Avant qu'on plonge dans le bouquin, ouais, il y a quand même des développements importants nouveaux concernant Israël et le Hamas.
Oui, ça montre à quel point il y a du côté du Hamas, en tout cas, une espèce de résilience là, qui montrent qu'ils veulent poursuivre, là. Ils sont pas écrasés, là. Ils ont émis un avis aux gens, aux habitants de la ville de Ashkelon. C'est une ville qui est pas les mêmes lieux où il y a eu des combats en fin de semaine. C'est une grande ville de 150 000 habitants et qui a souvent été bombardée dans le passé parce que c'est plus facile de cibler une grande ville qu'un village. Mais là, c'est sérieux. Ils disent aux habitants de la ville, quittez la ville parce que nous allons bombarder. Ils annoncent même le début des bombardements. Ça, c'est une sorte de bravade absolument exceptionnel à l'endroit d'Israël. Les militaires israéliens qui confirment d'ailleurs que depuis le début, là, il y a eu 4500 projectiles, missiles de toutes sortes qui ont été tirés à destination d'Israël. Il y a un système de protection qu'on appelle le Iron Dome qui a été fourni en partie par les États-Unis et qui en intercepte certains, mais qui en rate d'autres. Parce qu'il y a eu des déflagrations, on l'a vu en fin de semaine. Donc, je voulais dire ça parce que ça montre vraiment à quel point c'est pas fini. Et puis, ils sont extrêmement aussi agressifs et audacieux dans leur façon de se comporter.
Parlons du livre « Où s'en va la Chine? Les angoisses de ma prof de chinois ». Je te le disais parce que je lisais le bouquin en parallèle avec les événements.
Ouais.
Et tu le dis très clairement dans le livre, il y a la Chine et il y a les Chinois.
Ouais.
Et il faut distinguer les deux.
Comme il y a les Palestiniens, citoyens, civils.
Et il y a le Hamas.
Et le Hamas et les milices qui sont...
Qu'est-ce qu'on ne sait pas des Chinois?
Ben, ce qu'on ne sait pas des Chinois, c'est à quel point c'est un peuple qui a appris à travers les siècles à vivre avec le diable. Moi, j'appelle ça le diable ou j'appelle ça le pouvoir chinois avec un P majuscule parce que les Chinois d'aujourd'hui, il faut l'imaginer, là, ils n'ont jamais voté pour personne. Quand ils ont des votes à l'échelle municipale, entre autres, les candidats sont désignés par le Parti communiste chinois. Mais j'ai voulu, moi, quand je parle des angoisses de ma prof de chinois, c'est que chaque semaine, jusqu'à récemment, j'avais des cours de chinois, même ici à distance, avec une professeure de chinois en Chine que je ne nomme pas parce que je cache son nom. Je lui ai donné un nom. Elle s'appelle Ai Sheng. Ça veut dire elle aime la vie, littéralement, parce que je dis elle vit dans un état policier, donc un état autoritaire. Et même si, alors ce que je décris, c'est que on a entre nous pendant plusieurs années, on a eu des discussions chaque semaine parce que pour apprendre du nouveau vocabulaire, elle me donne des sujets de discussion puis on parle. Elle parle beaucoup de politique, elle parle beaucoup de son pays. Elle aime parler de son pays, mais elle aime parler aussi de nos pays, du Canada, entre autres, parce qu'elle lit les journaux et tout ça. Et ça m'a permis de, à la longue, elle m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses, parce que c'est la perception d'une jeune femme dans la trentaine, aujourd'hui en Chine. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'elle, justement, elle discute de ça. Elle dit, tu ne trouves pas des fois qu'on vit dans un pays de type orwellien, le meilleur des mondes. Tu sais, ces romans de ces grands romans de fiction qui ont décrit la cité de l'avenir, la société de l'avenir, extrêmement autoritaire, où tout est réglé à l'avance et tout ça. Et moi, c'est ça qui me frappe dans ce pays-là, que moi, j'aime beaucoup ce peuple-là, que je fréquente depuis 40 ans. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, parce qu'on c'est toujours intimidant d'écrire sur la Chine. C'est une société qui a une histoire énorme, une culture énorme, qui est complexe. Il y a même des gens qui disent, les spécialistes de la Chine qui blaguent en disant, quand on vit en Chine 3 semaines, on écrit un livre. Quand on vit en Chine 3 mois, on écrit un article de journal. Et quand on vit en Chine 3 ans, on n'ose plus écrire sur la Chine. J'ai osé parce que, d'abord, je pense qu'ici, on connaît mal ces Chinois-là. Je le dis dans une phrase, au moment où on a des problèmes avec eux, au moment où ils deviennent un État qu'on identifie dans notre politique indo-pacifique comme étant un État perturbateur dans le monde. On a des relations difficiles avec ces gens-là. C'est la deuxième puissance au monde. Moi, je trouve déplorable qu'on n'y connaisse pas grand-chose. Alors, j'ai voulu raconter à travers mon expérience.
Je veux que tu me parles des Chinois avec des, je dirais, dans des situations très précises. Tu décris dans le livre toute la période, toute la politique de la COVID-0, le confinement. Nous, on a une vision ici de ce que ça a voulu dire. Mais c'est terrible, et c'est à l'image du gouvernement chinois d'imposer, d'entrer dans la vie des gens de façon brutale.
Ah oui, je raconte, parce que la pire période, en fait, j'avais déjà quitté la Chine, c'est au printemps 2022, après les Jeux olympiques d'hiver, où le virus Omicron s'est répandu, est sorti du village olympique, puis s'est répandu dans la société chinoise. L'Omicron, c'est un virus qui se propage rapidement. Et il faut imaginer qu'à l'échelle d'1,4 milliard d'habitants, le gouvernement chinois, depuis le début de la pandémie, d'abord, le gouvernement chinois qui nous a jamais permis de savoir exactement d'où venait cette pandémie-là. Les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé ont même pas pu faire de vraies études d'origine de cette pandémie-là. Mais les Chinois, dès le début, ont décidé, eux, qu'ils allaient tuer le virus chaque fois où il allait apparaître. Alors, c'est des organisations massives où on ferme des villes entières pendant des semaines, des mois, puis on élimine tous les cas jusqu'à la fin. Quand l'Omicron est arrivé, c'était impossible, cette histoire-là, parce que on pouvait pas faire ça, ça se répandait partout, puis les Chinois n'avaient pas développé, comme nous, une immunité collective contre le virus. Alors, ça s'est mis à se répandre partout, le gouvernement a paniqué, et dans cette obsession-là, il a continué à faire la politique de zéro COVID, et à un moment donné, à cette époque-là, jusqu'à 50 villes de Chine étaient complètement fermées, 80% de la production arrêtée, l'économie a fait une chute telle pendant des mois que, même encore aujourd'hui, la Chine essaie de se relever de ça. Les gens étaient tellement traumatisés. Mais je décris comment les gens sont enfermés chez eux. Ils ont même pas droit d'aller à l'épicerie. Le gouvernement leur dit, on va vous nourrir. Mais ça prend des semaines avant que, dans une ville comme Shanghai, 25, 26 millions d'habitants, les camions qui viennent de la campagne ont de la misère à se rendre parce qu'il y a des barrages de sanitaires et tout ça. Les gens se font tester tous les jours. Ils peuvent descendre de leur appartement dans la cour pour se faire tester, mais ils n'ont pas de nourriture. Ils vivent sur leurs réserves. C'est une situation qui illustre l'espèce d'autorité absolue que les Chinois vont devoir complètement abandonner quelques mois plus tard, tellement il y a des protestations dans le pays.
Mais c'est un peuple qui a connu, évidemment, le régime de Mao, la révolution culturelle avec tous les abus que ça suppose. Ouais. Et tu parles dans le livre une espèce de lueur d'espoir d'un leader qui aurait pu changer, qui a changé un bon nombre de choses, mais Deng Xiaoping, qui est un vieux monsieur qui a pris le pouvoir.
Oui, puis je raconte même ce qui impressionne beaucoup les Chinois, c'est le bénéfice de l'âge. Quand j'étais jeune, donc dans les années 80 en Chine, d'ailleurs la Chine aussi, ce que les Chinois me disent souvent, c'est
c'était un autre pays à l'époque. C'était un des pays les plus pauvres du monde. Et lui, cet homme-là, Deng Xiaoping, que j'ai rencontré parce que Pierre-Éliott Trudeau est venu à l'époque en visite privée après avoir quitté le pouvoir, puis on a pu l'accompagner. Il nous a serré la main, nous a dit bonjour en français à l'époque parce qu'il avait étudié jeune en France. Cet homme-là qui avait 80 ans, quoi, à l'époque, il décide et qui a été lui-même ostracisé par Mao, qui l'avait servi pendant des années. Il a vu toutes les horreurs de la révolution culturelle. Son propre fils a été défenestré à l'université et est resté infirme jusqu'à la fin de ses jours. Son fils aîné. Et Deng Xiaoping lui dit, dorénavant, là, faut que ça change. Ça pue de bon sens. Alors, il dit aux Chinois, dorénavant, il n'est plus honteux d'être riche. Et il faut voir la vérité dans les faits. Il faut arrêter de se conter des histoires. Puis il va lancer en Chine une révolution économique absolument invraisemblable que moi, j'ai vu dans ses tout débuts. Puis je me souviens, à l'époque, j'avais un projet de livre, puis j'avais écrit, si les réformes de ce gars-là continuent pendant 30 ans, dans 30 ans, la Chine va être la première économie du monde. Tout le monde riait de moi. Mais on y est presque. Et cet homme-là, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a misé sur cette population qu'il connaissait très bien. Il lui a donné les moyens. D'abord, les paysans chinois, hein, c'était la grande majorité de la population à l'époque. Il leur a donné leur lopin de terre, puis il leur a dit, vous donnez à l'État la moitié de la récolte, l'autre récolte, vous en faites ce que vous voulez, vous la vendez dans des marchés privés. Les Chinois sont embarqués là-dedans. J'avais fait à l'époque un reportage sur le premier Chinois qui avait acheté une voiture. Ils n'avaient pas de voiture. Les Chinois dépendaient à 99 % de l'État. Il n'y avait pas de propriété en Chine. Aujourd'hui, le but de toute famille en Chine, c'est d'avoir une maison ou un appartement. À l'époque, j'avais fait un reportage sur ce paysan qui avait, lui, il s'était construit une immense maison à la campagne qui avait rempli de poules. Puis il vendait des poules. Puis il était devenu riche, un des premiers riches dans son village, dans sa province, et puis il s'est acheté une auto.
Tu parles dans le livre, tu le cites, Alain Perfit, qui était un ministre du gouvernement français, « Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera ». Est-ce que c'est vraiment le pays qui va devenir rapidement, là, dans les prochaines années, la première puissance du monde?
Ben là, ce que je décris dans le livre, puis je pourrais en décrire même plus depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'arrivera pas, pour toutes sortes de raisons. La première raison, c'est que tant que la Chine est gérée par un gouvernement autoritaire, puis on a parlé de Deng Xiaoping qui est un visionnaire, ses réformes ont sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, là, la Chine fait face pour la première fois à un président que j'appelle le président de tout, qui, comme Mao, essaie de développer un culte de sa personnalité, est obsédé par la sécurité de son pouvoir, le contrôle à une échelle que je décris dans le livre et qui est inouï. Et c'est ça, probablement, qui principalement va nuire à la Chine au cours des prochaines années parce qu'il essaie même de contrôler l'industrie privée et le secteur privé qui constitue maintenant 70 % de l'économie. L'ultra-autorité, la censure, le contrôle, ça empêche la créativité. Alors que tu as un pays comme l'Inde qui est en train de monter à une vitesse presque plus rapide parce que l'Inde est un pays jeune. La Chine, un de ses handicaps aussi, c'est le vieillissement de sa population qui va lui coûter une fortune. La Chine a subi, à cause de toute la pandémie, les politiques que j'ai décrites plus tôt, elle a reculé économiquement. On pense qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à reprendre tout ce terrain-là. Puis ensuite aussi, il y a différentes politiques qui sont autoritaires, avec des ornières et qui nuisent beaucoup à l'économie de la Chine, ce qui fait que c'est son propre système qui l'empêcherait peut-être, de réaliser son rêve. Chose certaine, quand on prévoyait, là, je l'écrivais, moi, il y a quelques années à peine, que d'ici peut-être 2030, la Chine serait la première économie. On voit pas ça venir du tout. Et l'autre raison, c'est que un pays comme les États-Unis faiblit beaucoup moins que nos autocrates qui nous critiquent, là, comme Poutine et le président Xi Jinping, par exemple, voient ou prédisent la faillite de notre système. Ben, ça se produit pas vraiment. L'économie américaine continue à occuper une place extrêmement importante dans le monde. Alors, il y a des nuances sur cette chose-là, mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui 400 millions de Chinois qui vivent comme la classe moyenne des États-Unis ou la classe moyenne canadienne. Je dis aussi que Très certainement, le Chinois moyen aujourd'hui a autant d'espoir de réaliser ses rêves, sinon plus que nous, parce que le système est efficace. Les villes chinoises sont des villes extraordinaires. Et je décris aussi tous les succès que la Chine... L'exemple...
Mais la croissance ultra rapide, c'est hallucinant. Oui. Quand tu as débarqué comme reporter, comme journaliste sur place, et que tu retournes là après comme diplomate... C'est fulgurant.
C'est ça. C'est une des choses dont je veux témoigner. C'est tout ce qui s'est passé en 40 ans. Il y a eu trois décennies pendant lesquelles l'économie croissait de 10 % par année. On n'imagine pas ce que ça veut dire, mais je décris à un moment donné comment dans ma rue à Shanghai, où j'habite, je m'en vais un mois, puis je reviens, puis je reconnais plus la rue. Puis c'est une rue importante parce que les choses changent tellement vite.
Construction.
Il y a un tel dynamisme et tout ça. Avec ses défauts, hein, on a tellement... Quand je disais les Chinois n'habitaient pas dans des appartements ou il y a des maisons qui leur appartenaient. La Chine, pour se développer, a stimulé la croissance du secteur immobilier, mais il y a eu toutes sortes d'abus. La terre en Chine appartient au gouvernement. Donc, les gouvernements corrompus qui se sont succédés ont donné à leurs amis des terres. Les promoteurs sont partis dans les banques chercher de l'argent pour développer. On a développé, puis on voit aujourd'hui des villes entières qui sont des villes fantômes parce que les promoteurs sont pas capables de finir les édifices. Ils ont plus d'argent. Une des plus grandes compagnie immobilière au monde, Evergrande, est en faillite. Mmh. Si le gouvernement est obligé de la sauver vraiment de la faillite pour protéger l'économie chinoise, il va devoir s'endetter. Alors que la Chine, pour avoir ce développement-là à travers toutes les crises économiques qu'elle a traversées comme nous, elle a tellement stimulé artificiellement cette croissance-là que c'est un pays extrêmement endetté aujourd'hui. Donc, à l'échelle d'1,4 milliard, ils ont leurs problèmes, mais ils ont aussi beaucoup de réussites.
Jean-François, merci beaucoup. À lire Les angoisses de ma prof de chinois, Où s'en va la Chine, de Jean-François Lépine, disponible aux éditions Libre Expression.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.